Voyons maintenant un autre élément concernant toujours les objectifs. La situation suivante, lorsqu'il y a un écart entre les objectifs annoncés et les objectifs réels. Je prends un exemple. Un groupe de salariés formule une demande. L'objectif qu'il exprime est, par exemple, nous voulons obtenir une prime exceptionnelle pour l'ensemble des salariés de l'atelier. Donc a priori, on est en zone 1. Un élément complémentaire, les leaders du groupe de salariés considèrent que le chef d'atelier n'est pas adapté. Il est trop ceci ou il n'est pas assez cela. Et ils ont l'objectif de faire en sorte qu'il soit muté ou au moins qu'il soit neutralisé. Mais cet objectif n'est pas annoncé. Et il s'avère que pour ces personnes, cet objectif est réellement le plus important. Lors d'une réunion avec la direction où le chef d'atelier est présent, la direction annonce aux salariés qu'elle accorde la prime exceptionnelle demandée. Ben dans ce cas-là, il est probable que la réaction des ouvriers, immédiate ou alors quelques temps après, soit de se découvrir comme par hasard un nouveau sujet de revendication. Je vais vous donner un autre exemple. Si dans des structures entre guillemets médiatiques, telles que les grandes entreprises nationales ou certaines administrations, les objectifs annoncés des groupes en présence sont toujours liés à la zone 1, ils sont parfois complétés par des objectifs de la zone 3, ce qui positionne l'objectif global dans la zone 2. Il arrive parfois même que l'objectif de la zone 3 soit clairement exprimé. Par exemple, un syndicat d'enseignants qui demande explicitement la démission du ministre de l'Éducation et qui en fait même officiellement un préalable à toute discussion. Mais dans la majorité des cas, cet objectif est maintenu non exprimé. Alors, exemple d'objectif non exprimé, mais bien réel, mettre en difficulté un gouvernement, influencer des électeurs sur des scrutins politiques nationaux ou par exemple sur des scrutins prud'homaux. Un bon conflit bien mené peut être un moyen puissant et gratuit de promotion pour une organisation, qu'elle soit patronale ou qu'elle soit une organisation de salariés. Voyons les problèmes qui sont posés par cet écart. Lorsque les personnes chargées d'énoncer les objectifs sont conscientes de cet écart, il s'agit clairement d'une manipulation. Et dans ce cas-là, elle comporte plusieurs risques. Le premier risque, c'est passer du temps et de l'énergie à tenter de trouver des solutions à un problème, mais passer à côté de l'essentiel. Un autre risque, c'est entraîner des comportements des représentants du groupe qui sont vécus comme incohérents par l'autre partie et par les observateurs. C'est, on ne comprend pas, on leur a donné satisfaction et ils continuent à ne pas être contents. Et cette perception d'incohérence peut entraîner une perte de crédibilité auprès de l'autre partie. Et elle peut se manifester par un refus de discuter, par une radicalisation de cette autre partie. C'est pas la peine de discuter, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il peut aussi apparaître une perte de crédibilité dans le camp même des personnes déléguées. Lorsque, entre guillemets, la base n'est pas informée des objectifs secrets de ses délégués, elle risque de ne plus se reconnaître dans la stratégie adoptée. Et elle va probablement détecter rapidement qu'elle est victime d'une manipulation par les personnes mêmes qui sont chargées officiellement de défendre ses intérêts. C'est l'une des raisons de l'émergence de ce que l'on appelle les coordinations spontanées. Et dans tous les cas que je connais de ce type d'émergence, les organisations officiellement chargées de défendre les groupes concernés étaient présentes et actives dès le début du conflit. Donc ce qui a conduit des membres du groupe à s'auto-organiser et à se détourner de ces instances officielles est toujours le fait qu'à un moment, elles ne se sont pas ou elles ne se sont plus senties en phase avec les objectifs annoncés ou la stratégie adoptée par ces instances. Et voyons les conséquences de ces éléments sur la conduite d'une négociation. Concernant les objectifs de chaque partie, le rôle premier de la personne chargée de conduire les négociations est d'aider chacun d'abord à clarifier et à rendre plus explicites ses objectifs, et deuxièmement à renoncer aux objectifs de type 2. Il s'agit d'accompagner le groupe à passer d'un désir de vengeance à une demande de réparation. Et réparation n'est pas synonyme de vengeance. Je donne quelques explications complémentaires en la matière. Pour moi, le désir de vengeance est engendré par le sentiment de haine envers l'autre. Et l'une des sources de ce sentiment est la perception d'un préjudice subi, c'est ce que nous avons vu. Il nous a fait du tort, c'est injuste, donc il doit payer. Le sentiment de justice réclame qu'il subisse à son tour un préjudice. Et le préjudice qu'il va subir le conduira à éprouver un sentiment d'injustice à son tour, qui l'entraînera à son tour donc à tenter de nuire à l'autre. et chaque camp pourra brandir ses meurtrissures pour justifier celles qu'il essaye d'infliger à l'autre. Pour accompagner la sortie d'un conflit collectif, il s'agit donc d'accompagner le groupe à renoncer à la vengeance, de renoncer à l'objectif de simplement nuire à l'autre. Et de mon point de vue, il est intéressant de renoncer à cet objectif, non seulement pour des considérations éthiques, mais aussi par intérêt personnel. En effet, la conséquence probable de la vengeance que j'exerce est un nouveau préjudice que je risque de subir en réaction à cette vengeance. Par contre, il est un objectif qui me paraît légitime et sain, c'est obtenir réparation. Lorsque je demande réparation, je ne suis pas dans la zone 3, d'objectif de nuire à l'autre, mais en zone 1, qui est préserver mes intérêts. Il ne s'agit donc pas de priver l'autre de quelque chose, mais il s'agit d'obtenir réparation du préjudice que j'ai subi, restauration de ce qui m'a été enlevé. Un exemple, si des personnes ont été humiliées par le fonctionnement d'un manager autoritaire et méprisant, il est cohérent, au lieu de tenter de se venger de lui, qu'il demande réparation. Et cette réparation, peut-être que le manager présente ses excuses sur son comportement et prenne l'engagement de ne plus avoir ce type de dysfonctionnement.